Merci Maëlys et à lundi pour un nouveau rendez-vous avec l'économie.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui jeudi, nous vous proposons d'écouter une émission consacrée à Joyce Carol Oates. Elle vous est comme chaque jour proposée, cette émission, par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin et Chloé Kaczmarek. Joyce Carol Oates, à qui nous avions consacré un épisode le 18 octobre dernier, mais sans pouvoir lui laisser davantage de place. Ce sera donc réparé aujourd'hui, et vous pouvez considérer cette émission comme une digression par rapport aux trois premières consacrées cette semaine à Laurence Sterne, digression dont l'illustre anglais était bien évidemment le maître. Nous l'avons entendu cette semaine dans une série consacrée à Sterne et que vous pouvez retrouver en podcast. Aujourd'hui, en seconde partie avec Ingrid Astier, nous parlerons de Oates et la boxe. Mais avant cela, pour continuer à creuser ce qui anime Joyce Carol Oates et tenter de nous approcher un peu plus de qui elle est, eh bien je reçois Nancy Houston, romancière, essayiste, dramaturge. Elle publie plusieurs livres ces jours-ci, parmi lesquels on peut citer le recueil de nouvelles Sensations fortes chez Actes Sud. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
D'abord, le tatouage est sang, un suintement de gouttelettes rouges, un pointillé de douleur façon piqûre d'épingle tracée sur la chair pâle et tendre de l'épaule gauche de Marie. Elle serre les dents pour ne pas pleurer, gémir, ni même grogner en faisant un peu le clown comme Goldie, dont le visage brillait de sueur, pour ne pas grimacer en gloussant comme Lana, ou trembler visiblement tout en mordant sa lèvre inférieure comme Rita. Elle sait que c'est de douleur qu'il s'agit, que c'est folie de se laisser ainsi mutiler dans sa chair, et pourtant, la sensation est douce. Je suis si heureuse que mon cœur va éclater. Plus tard, quand le saignement s'arrêtera, elles badigeonneront d'alcool leurs petites blessures et la tapoteront d'une teinture rouge qu'elles feront pénétrer pour figurer la flamme, cette sorte de teinture végétale qu'on emploie pour colorer les œufs de Pâques. Mais pour l'instant, tant que leur sang est encore frais, leur sang individuel, elles se frottent les unes aux autres pour le mélanger, comme Lex leur a enjoint de le faire.
Bonjour Nancy Houston.
Bonjour.
Merci de passer nous voir aujourd'hui. On vient d'entendre un court extrait de Confession d'un gang de filles lu par Anouk Grimbert. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte. Vous dites avoir lu seulement 15% environ de la production de Joyce Carol Oates. Ça fait déjà pas mal d'ailleurs, 15% de tout ce qu'elle a écrit.
Je crois que j'ai dit entre 5 et 10%.
Ah, voilà. Là.
Mais donc c'est très peu, en espérant que c'est quand même un échantillon représentatif. Donc je n'ai pas lu celui-ci.
Qu'est-ce que vous inspire d'entendre juste
ce qu'on entend tout de suite, bien sûr, dans la magnifique voix d'Anouk Grimbert, c'est l'intensité et le soin de détail, de l'évocation d'une expérience physique. Elle a une délectation véritable d'essayer d'être le plus précis possible, d'évoquer ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on éprouve. Et le paradoxe étant, je crois qu'on va en parler longuement, que Joyce Carol Oates était très loin de son propre corps, très rétive d'avoir un corps, très contre le fait que son âme doive occuper un corps, ce qui est un peu une absurdité logique, mais c'est ça qui nous a valu une œuvre extraordinairement riche sur les malheurs du corps.
Et donc une œuvre aussi prolixe, mais pas verbeuse.
Oui, moi, Je n'aime pas le mot prolixe, on me l'applique parfois. C'est prolifique qu'il faudrait dire, ce n'est pas la même chose. Prolixe veut dire qu'on est bavard, qu'on parle énormément pour ne rien dire, alors que prolifique, ça veut dire qu'on produit beaucoup.
Et on vous taxe souvent de prolixité?
On me dit, mais j'entends souvent ce genre de choses. Ah oui, toi tu publies un livre par an, effectivement, on n'arrive pas à te lire aussi rapidement que toi tu écris. Mais à côté de Joyce Carol Oates, il faut dire que je suis une petite naine.
Plus de 200 livres?
C'est de 200 incroyable. Livres, si vous achetez les cahiers de Lerne et que vous regardez la liste des fictions de l'an 2000 à la page 270, c'est proprement stupéfiant. C'est un petit peu comme Mozart, on se dit comment physiquement quelqu'un qui est mort à 37 ans pouvait avoir composé cette quantité de musique, même en ne mangeant pas, en ne dormant pas, en ne voyageant pas. Et sans parler de faire des enfants et ainsi de suite. Joyce Carol Oates, elle, mangeait peu, voyageait peu, voyage peu et doit dormir très très peu. Mais néanmoins, 200 livres, même si elle a presque 80 ans maintenant, ça fait plusieurs livres par an. Et ce ne sont pas des petits livres. Quand vous regardez Blonde qui fait 1000 pages, mais la même année, il y a d'autres romans, il y a des nouvelles, il y a des essais, il y a des pièces de théâtre, elle donne des interviews, elle enseigne à plein temps, elle s'occupe de la réédition de ses anciennes œuvres. Et donc on est presque un peu inquiet.
Et cette alors prolifiquité, je ne sais pas, est-ce que elle est un reproche qu'on adresse particulièrement aux femmes, selon vous? Est-ce que on dirait de Balzac, par exemple, que il avait trop écrit, ou est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'on la taxe d'être trop prolixe finalement?
Moi, ça me frappe qu'on le dise plutôt des femmes, mais je ne veux pas en faire un grand problème. Mais c'est vrai que Victor Hugo, par exemple, c'est quelqu'un aussi qui a été incroyablement prolifique, qui avait par ailleurs son travail politique, sa correspondance. Enfin, là aussi, on a la tête qui tourne quand on pense à tout ce qu'il a pu faire. Mais que ce soit un homme ou une femme, je pense que l'important, c'est toujours de dire qu'un auteur fait ce qu'il peut, ce qu'il doit faire, et que on peut percevoir ce besoin de quantité comme une sorte de maladie, entre guillemets, mais être artiste en tant que tel, ce n'est pas quelque chose de normal. Si on est artiste, c'est forcément que on n'a pas envie, on ne peut pas se contenter d'une vie ordinaire parmi les siens. On a besoin de se retirer des autres, de s'isoler, d'essayer de traduire l'expérience en une autre langue. Donc chacun, même si elle n'avait fait qu'un seul livre, Joyce Carol Oates, et que ce livre avait été Blonde, par exemple, je pense qu'elle aurait mérité une vraie reconnaissance et célébrité. Ensuite, comme elle en a fait beaucoup, ça veut dire qu'il y a à boire et à manger, qu'on a énormément de choix, qu'on peut aimer certains et pas d'autres. Nous avons le même agent littéraire, et je me souviens de son vivant, Marie Kling, notre agent commun, disait il y en a trop, elle m'en envoie encore, des romans gothiques, etc., la même année, ou des romans sous pseudonyme, voilà, un petit peu comme Romain Gary aussi, était quelqu'un d'irrépressible, cette énergie littéraire irrépressible, sans quoi il se suicidait, d'ailleurs il s'est suicidé.
Mais donc vous vous êtes permis de vous interroger sur le pourquoi finalement de la taille de cette production, parce que vous dites que en effet on n'a pas à s'interroger sur le pourquoi, c'est comme ça, l'artiste fait ce qu'il doit faire, mais en même temps on ne peut pas s'empêcher de se poser la question du pourquoi.
Donc oui, effectivement, je pense que la clé chez Joyce Carol Oates, comme chez beaucoup malheureusement de femmes artistes, c'est suggéré dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est probablement le point de départ de son besoin d'écrire. C'est une expérience d'agression sexuelle dans l'enfance. Elle en a parlé à des gens qui l'ont interrogée sur sa vie. Elle en parle de façon tranquille et détachée. Je pense que peut-être la majorité des femmes dans le monde, on en entend énormément parler en ce moment d'agressions sexuelles, ou peut-être particulièrement dans nos sociétés chrétiennes qui ont ou monothéistes qui ont fait du corps quelque chose comme un péché, qui nous ont séparés de nos corps beaucoup plus que par exemple dans les sociétés africaines où il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Je pense que la perversion des hommes est beaucoup moindre probablement dans les sociétés traditionnelles, animistes ou autres. Dans nos sociétés monothéistes, elle est fréquente, elle est pérenne.
Et là, vous ne faites pas de différence entre vous qui connaissez les deux côtés de l'Atlantique, vous ne faites pas de différence entre les États-Unis et l'Europe.
Mais je n'étais pas enfant en France. Mais mes enfants étaient enfants en France. Et je pense que, oui, ça doit se valoir à peu près. Avec une mention spéciale, quand même, pour le catholicisme, qui a tendance à ritualiser ces choses. Donc, ce genre de choses, ça va donner l'érotisme noir, ça va donner Georges Bataille. On peut pas imaginer Georges Bataille sans le catholicisme. Chez nous, c'est plus protestant. Je pense particulièrement aux récits de Joyce Carol Oates, mais ils sont légion, les récits qui font allusion à ça. Premier amour, où une petite fille de 11 ans est vraiment torturée par un jeune séminariste qui se trouve être son cousin.
Ne me fais pas de mal, oh, je t'en supplie. T'entends-tu implorer, mais Jared n'y prête pas attention. Lentement, cérémonieusement, d'une main d'abord incertaine, il te déshabille. Ôte ton t-shirt sans manches. Fais glisser ton short en coton. Ta petite culotte en élan. Tu t'es mise à sangloter, mais Jared te parle d'une voix douce, compatissante. Dis-moi, petite, tu n'es pas très propre. Ta traînée de mère n'a guère le temps de s'occuper de toi, hein? Mais moi, si. Espiègle, mais pressant. Un sourire forcé aux lèvres, les mains en coupe. Il prend de l'eau qu'il déverse sur toi, sur ton visage enflammé, sur ton cou, sur tes petits seins plats, hérissés de chair de poule, sur ton ventre, sur tes fesses contractées. Ce pourrait être un jeu et rien de plus sérieux. Tu glapis, tu glousses, Jared te chatouille sans paraître se rendre compte de ce qu'il fait, à moins qu'il ne s'en rende compte parfaitement. Et qu'une part du jeu consiste précisément à feindre de ne s'apercevoir de rien. Il se baisse alors pour s'éclabousser le visage. L'eau coule en rigole sur son torse, couvert de petits poils frisottés, sur son dos pâle et luisant. Il murmure combien il est essentiel d'être propre, propre, propre.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs, nous parlons de Joyce Carol Oates. Avec vous, Nancy Houston, et c'était un extrait de Premier Amour, lui ici par Anouk Grimbert. Que souhaitez-vous dire précisément sur cet extrait? Que vous évoque-t-il?
Oui, c'est un extrait qui ressemble un petit peu au premier, et c'est un texte que j'ai découvert un peu tard. Ce qui me frappe, c'est que dans la production de Joyce Carol Oates, le thème de l'abus sexuel, la pédophilie est de plus en plus envahissant, de plus en plus prégnant. Et je pense que ça, c'est assez fréquent aussi avec l'âge. Les choses, on ne surmonte pas. En fait, l'enfance devient de plus en plus proche. Mais ce serait une erreur, bien sûr, de réduire Joyce Carol Oates à ces thèmes d'agression sexuelle contre les enfants. Ce que il faut surtout dire, c'est qu'à quelque chose, malheur est bon. Puisqu'elle a vécu cette chose-là de façon très intense, elle a basculé dans un rapport au langage très singulier. Ce n'est pas peut-être unique au monde. Je pense que c'est assez proche, par exemple, de Virginia Woolf ou de Simone Weil, la philosophe. C'est-à-dire qu'elle a éprouvé à partir de là et de façon en crescendo le besoin d'exprimer le monde, d'écrire et de sortir de son propre corps pour le faire. Donc elle vit, on peut dire, si on veut, par procuration. Elle décrit des expériences qu'elle n'a jamais eues, par exemple la maternité, la grossesse, mais plein de choses. Elle a une capacité étonnante, stupéfiante, de se projeter dans la vie de gens très divers, très différents d'elle. C'est vrai qu'elle a grandi, comme vous l'avez dit, dans l'Amérique, près de Detroit. Elle a grandi dans une famille de la classe ouvrière. Sa jeunesse, la puberté était aussi l'époque des grandes émeutes raciales de Detroit, et elle a écrit un des plus beaux livres du monde sur la pauvreté, qui s'appelle sur la violence et le désespoir et la dégénération du monde des pauvres, qui s'appelle E-U-X, même pas un E majuscule, c'est minuscule. Et c'est un livre qu'on peut lire aujourd'hui comme si c'était écrit maintenant, en transposant, bien sûr. Elle a beaucoup... C'est une grande écrivaine politique. C'est une grande écrivaine des États-Unis. Même blonde, ce n'est pas seulement l'histoire d'une petite fille qui a été agressée et qui est devenue une star voluptueuse sur laquelle tout le monde fantasmait. C'est aussi le meilleur livre sur le mythe de Hollywood.
Mais pour revenir au corps chez Joyce Carol Oates, d'abord peut-être dire au passage que la petite fille dont on entendait dans l'extrait précédent l'agression par un jeune théologien de 26 ans, elle s'appelle des mêmes initiales que Joyce Carol Oates, et ça montre, comme vous le dites, la correspondance en même temps que l'éloignement entre Joyce Carol Oates et...
Elle joue là-dessus parce qu'elle sait bien que nous allons dire « Ah ah, regardez, elle a les mêmes initiales, donc c'est elle !»
C'est ce que nous faisons, justement, maintenant.
Mais ce n'est pas elle, un personnage, ce n'est jamais nous. Un personnage, ce n'est jamais nous, c'est une facette de nous.
Et pourquoi alors joue-t-elle là-dessus ?
Donc elle joue là-dessus aussi parce qu'elle joue sur « Jesus Christ, our Savior », JCS. Oui, c'est JCS, en anglais, c'est, on peut dire aussi, le nom, ce sont les initiales non pas de Joyce Carol Oates, mais de Joyce Carol Smith, parce qu'elle s'appelait Smith pendant toute sa vie, mariée avec Raymond Smith. Donc, elle aime bien nous lancer sur des pistes si ça nous amuse, mais elle est toujours très loin devant nous. Elle ne peut jamais, on ne peut jamais, jamais, jamais la rattraper comme ça. Ce qui est important dans le livre, c'est qu'elle nous incite à se glisser dans la peau non seulement de cette petite fille, mais dans cette époque des États-Unis, dans toute une ambiance. Elle n'est pas en train de prendre sa revanche ou quoi que ce soit. C'est pas aussi simple ni aussi intéressé que ça.
Et vous parlez de son mari Raymond Smith, à qui elle a d'ailleurs consacré après sa mort un livre. Et là, on rejoint la thématique du corps parce que au fond, elle parle très peu. Dans son journal, par exemple, voire même peut-être jamais, de caresses, d'un lien charnel qu'elle aurait eu avec son mari. Est-ce que, pour vous, c'est le signe de quelque chose, Nancy Huston?
Encore, on n'est pas dans leur lit, bien sûr, et beaucoup d'entre nous n'écrivons pas les caresses que nous recevons dans notre journal. C'est presque pas la peine, mais il me semble que c'était probablement un couple un petit peu comme Virginia et Leonard Woolf. J'avais fait ici à France Culture une série qui s'appelait Scènes littéraires, scènes de ménage, où on parlait des rapports de couple dont on pouvait avoir besoin pour pouvoir écrire. Et Joyce et Raymond ont instauré ce même type de rapport que Virginia et Leonard, à savoir que lui, il était là, il était fort, il était rassurant, sympathique, il fournissait un cadre, il a fondé une revue littéraire à laquelle Joyce pouvait contribuer, elle pouvait faire aussi un travail très calmant là-dessus, un peu comme Virginia travaillait sur l'imprimerie avec son mari. Ils avaient créé une maison d'édition. Et donc, c'était le mari idéal pendant 46 ans pour Joyce Carol Oates. C'était vraiment ce qui lui a permis d'écrire. Et effectivement, lorsqu'il est mort de façon inattendue, en 2008, elle est devenue folle. Et le livre, qui s'appelle Widow's Tale en anglais, l'histoire de la veuve, documente cette folie. C'est encore un livre de 400 pages, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et on est stupéfait de voir la fragilité de cette très grande femme, parce qu'elle est déjà célèbre dans le monde entier. Elle est à l'Académie, elle a eu toutes sortes de prix, etc. Elle ne peut pas douter de sa valeur. Et en même temps, il y a une voix en elle qu'elle appelle la voix du basilic. Cette sorte salamandre, serpent dont le regard tue et qui la surveille, qui la critique, qui la paralyse, qui la condamne à mort, qui lui dit, qui se moque d'elle à chaque instant. T'as encore égaré les clés de la voiture. Regarde, il y a que toi qui doivent rentrer chez toi en tâtonnant, etc. T'es nul. T'as mal garé la bagnole, etc. Elle ne peut rien faire. Même quand elle est en public et que les gens l'applaudissent et qu'elle est reconnue comme la grande écrivaine et professeure qu'elle est, le basilic est là à se moquer d'elle.
Enfin, elle dit que quand même, quand elle donne des conférences par exemple ou des cours à Princeton, elle se sent quand même mieux. Elle se dit « Ah oui, en fait, je suis quand même Joyce Carol Oates ». Et c'est dès qu'elle revient chez elle qu'elle perd finalement ce sentiment d'une certaine réussite.
Il n'est pas dupe. Le basilic n'est pas dupe. Tous ces diplômes, toute sa célébrité ne sert strictement à rien face à sa dureté, sa méchanceté, sa condamnation à mort. Elle est très près du suicide. Elle sort tous ses médicaments, elle les regarde, elle se dit oui, ça suffirait et tout. Et donc, parce que c'est vraiment une sorte de donc, elle se marie avant qu'un an ne soit écoulé. Après la mort de son mari, et elle peut recommencer. Elle peut recommencer le rythme de deux livres par an, etc. Et je dois dire vraiment, tant mieux pour nous. Les livres sont forts, ils sont magnifiques. C'est une des approches les plus importantes, les plus riches et belles de l'Amérique de ces 50 dernières années. Donc, je voudrais surtout pas qu'on réduise la femme à ses histoires psychologiques. C'est grâce à ces histoires psychologiques que nous avons son œuvre. Et je pense que pour chaque grand homme qu'on peut citer, qu'on peut mentionner, que ce soit Jean-Paul Sartre ou autre, on peut aller dans son enfance, trouver le truc qui l'a absolument obligé à courir dans tous les sens, à écrire comme un malade, à être un piscopie, à beaucoup de... Oui, je peux dire ce mot-là pour Jean-Paul Sartre, je pense qu'il ne pouvait pas s'arrêter.
Lui ne pensait peut-être pas comme Joyce Carol Oates qu'il n'écrivait pas assez et qu'il était flemmard, parce qu'elle pense ça, ce qui est assez étonnant quand même.
Oui, elle n'arrête pas de se fustiger elle, pour sa paresse.
Et alors, sur toujours ces questions d'atteinte sexuelle et aussi de corps, il y a la présence aussi de l'anorexie, le rapport à la nourriture qui est très présent chez Joyce Carol Oates, Nancy Houston.
Oui, c'est la même chose. Quand je dis que chez les hommes, on pourrait trouver les événements qui ont déclenché une vocation littéraire ou philosophique ou autre, il faut quand même retenir cette différence que les femmes sont l'objet de des démarches sexuelles.
L'objet du basilic aussi, parce que le basilic, ça peut être le regard de l'homme sur les femmes.
Exactement. Et donc, ce n'est pas symétrique. On n'invente pas les mêmes névroses à partir de ça. Ce qui est sidérant, je pense, pour les petites filles, et j'en ai un peu parlé dans Reflet dans un œil d'homme, c'est le fait de produire quelque chose de très fort et d'éventuellement très violent en ne faisant rien, en étant soi-même. C'est parce qu'on a ce corps-là et que quelqu'un l'a vu, il y a eu une réaction. Et comme on est dans des sociétés où les réactions animales sont très, très encadrées et ont été très dévoyées aussi, très considérées comme relevant de Satan, revenant presque du basilic, c'est pour ça que ça peut être traumatisant pour les filles. Donc le but de Joyce Carol Oates, comme de Virginia Woolf, comme de Simone Veil, c'est de ne pas avoir de corps. Pour ne pas avoir de corps, on arrête de manger. J'ai traversé une phase comme ça aussi, je suis très heureuse d'en être sortie, mais j'ai été à peu près anorexique mettons 19 à 24, 5 ans, comme ça. Donc, je vois très, très bien ce que c'est, la passion de ne pas dormir, de chronométrer, de quadriller nos journées, de profiter au maximum de chaque seconde. Et manger, c'est une perte de temps. Dormir, c'est une perte de temps. Le corps, c'est une perte de temps. C'est une vraie maladie occidentale.
Et pour elle, quand elle doit manger ne serait-ce qu'une pomme, c'est une perte de temps et c'est une torture pour elle.
Voilà, elle a pas, elle mange une pomme, elle boit un peu de thé, elle veut pas perdre plus de temps que ça. Et c'est vraiment une maladie très grave, cette idée que le corps doit être, on le voit, mais c'est une transposition là aussi de certains comportements catholiques qui consistent à aller vers Dieu en faisant souffrir le corps, en se fustigeant, etc. C'est une forme de sainteté perverse. Alors,
dans votre article du Cahier de Lerne, vous soulignez aussi Nancy Houston à quel point Blonde, le roman de Joyce Carol Oates, est pour vous un très grand roman, peut-être le chef-d'œuvre. Je vous propose d'en écouter un extrait, lu ici par Guillaume Gallienne.
D'après ce qu'on en raconte, le lendemain, 16h précises, Sheen débarque avec la fille, Marilyn Monroe. Une blonde platinée superbe au corps exquis, vêtue de rayons blanches, chatoyante, et si terrifiée, remarque le réalisateur, que la pauvre gosse arrive tout juste à murmurer. La peau pâle, lumineuse d'une poupée de luxe, et des yeux bleus cobalt brillants de panique. Et les mains tremblantes, refermées sur le gros script. Et une voix si voilée que le réalisateur l'entend à peine lui déclarer comme une écolière émue qu'elle a lu le scénario, tout le scénario, que c'est une histoire étrange et dérangeante, comme un roman de Dostoïevski où on éprouve de la sympathie pour les criminels au point de ne pas vouloir qu'ils soient punis. La fille dit Dostoïevski en appuyant également sur toutes les syllabes. Le directeur dit « Alors comme ça, vous avez lu Dostoïevski, mon chou ?» Et la fille rougit, comprenant qu'on se moque d'elle. Et Sheen est là, le regard noir, empourpré, les lèvres épaisses, luisantes de salive. Donc le réalisateur demande à la blonde, Marilyn Monroe, de commencer son audition. Il y a 6 à 8 personnes dans la salle de répétition, tous des hommes. Chaises pliantes, store baissée contre la lumière vive du soleil. Pas de tapis sur le sol et ce sol est jonché de mégots et de détritus. Et la fille étonne tout le monde en s'y allongeant calmement dans sa robe de rayons blanches chatoyantes, repassée avec soin, jupe étroite, ceinture de tissu, en colure bateau, ne découvrant que le haut de ses seins crémeux. Avant que le réalisateur comprenne ce qu'elle a en tête ou que quelqu'un puisse l'arrêter. Par terre, sur le dos, les bras étendus. La fille explique avec sérieux au réalisateur que, dans sa première scène, le personnage est endormi sur un canapé qu'elle doit donc être étendue par terre. C'est ainsi qu'elle a répété. La première fois que l'on voit Angela, elle dort. C'est capital.
Would you have lunch with me?
I bring my lunch to the store.
I'd be so grateful if you'd take it out.
La compagnie des auteurs. Pourquoi est-ce le grand chef-d'œuvre de Joyce Carol Oates, selon vous, Nancy Houston? J'ai envie de dire parmi les 5 à 10% des livres que vous avez lus d'elle.
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement qu'après avoir lu ce livre, on ne peut plus penser à Marilyn Monroe sans entendre la voix de Norma Jean Baker, telle que Joyce Carol Oates l'a créée dans
C'est-à-dire
ce
la
livre.
Femme derrière Marilyn Monroe.
Elle est née avec, c'est son vrai nom, donc Marilyn Monroe c'est un pseudonyme, on le sait. Norma Jean Baker c'est la petite fille qui n'a jamais rencontré son père, dont la mère était folle, qui a été élevée dans des familles où les hommes l'agressaient sexuellement très très vite, puis dans un orphelinat, enfin qui a eu une enfance extrêmement désorganisée et difficile, et ensuite qui est entrée dans cette vie de star et qui a été transformée en méga célébrité par Hollywood avec aussi beaucoup beaucoup d'agressivité. Il ne faut pas oublier que ces femmes se suicident. Marilyn Monroe s'est suicidée, Virginia Woolf s'est suicidée, Simone Veil s'est suicidée, ainsi de suite. Ce ne sont pas des petites plaisanteries dont on parle. Le fait d'avoir déclenché ce type de comportement chez les hommes induit en nous une sorte de culpabilité. On se dit mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour obtenir ce résultat. On se sent sale, comme on a entendu dans l'extrait tout à l'heure. On se sent coupable, en tout cas. Et même beaucoup, beaucoup de succès, comme Virginia Woolf aussi, ou Simone Veil. Enfin, ce n'est pas... souvent, ça ne suffit pas pour vous permettre de continuer de vivre.
Vous avez rencontré, je crois, Joyce Carol Oates, ou en tout cas, vous l'avez croisée à Princeton. Que pouvez-vous nous dire des échanges que vous avez pu avoir avec elle?
C'est une histoire un peu drôle, mais je travaillais justement sur les couples d'écrivains à l'époque, et elle est venue écouter une conférence que j'avais faite sur l'idée de la gémellité. Donc, je parlais de Simone de Beauvoir et Sartre, d'une part, Sylvia Plath et Ted Hughes, d'autre part. C'était deux couples qui avaient fonctionné au moins un temps autour du mythe de la gémellité. Et Joyce Carol Oates n'est pas venue me parler après, mais elle m'a écrit un petit mot ensuite pour me dire que le livre qu'elle avait signé sous le pseudonyme Rosamund Smith s'appelait « The Lives of the Twins ». La vie des jumeaux, et c'était un petit peu pervers à son tour, parce que c'est vrai que son mari, Russell Smith, qui est assez proche de Rosamund Smith, essayait d'être un écrivain, d'être un romancier, il voulait vraiment publier. Et au bout d'un moment, on doit se dire, oui, n'importe quoi, tu écris n'importe quoi, t'es publié parce que tu t'appelles Joyce Carol Oates. Donc elle a changé de nom, mm-hmm. Elle a pris son nom quasiment.
Donc, et le livre un peu comme Émile Ajar et Romain Gary. Alors,
oui, ou Doris Lessing aussi a fait la même chose au bout d'un moment. Elle a publié sous pseudonyme pour voir si on l'écoutait. Et une fois, Romain Gary a donné le même livre à Gallimard pour voir si on suivait ou pas, 20 ans plus tard. Mais et ce livre donc a été publié, a eu aussi du succès. C'était un petit peu vache.
Pour terminer, vous avez aussi traduit, il faut quand même le signaler, un essai littéraire de Joyce Carol Oates, Emily Dickinson, L'âme chauffée à blanc, c'était en 1988. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là parmi toutes les possibilités que vous offrait Joyce Carol Oates en traduction?
Oui, c'était pour un numéro de revue que je faisais avec Leila Sebar sur le thème recluse vagabonde. Deux figures de l'écriture féminine et qui sont complémentaires et inverses, comme ça. Les femmes comme Isabelle Eberhardt, qui pouvaient être des grandes aventurières et écrire grâce au fait d'avoir presque adopté une identité masculine, ou si elles étaient femmes, alors s'enfermer, rester vierge, rester seule. Et Joyce Carol Oates était très fascinée par Emily Dickinson, qui avait fait ce choix-là à l'extrême, peut-être pour le même type de raison que Joyce est devenue anorexique, on ne sait pas.
Merci beaucoup Nancy Houston de nous avoir livré votre regard sur Joyce Carol Oates, dont nous allons continuer de parler jusqu'à la fin de cette émission. Et on commence tout de suite avec Stéphanie Genant, car oui, nous sommes jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Comme chaque jeudi, nous retrouvons nos grands lecteurs et nos grandes lectrices pour qu'ils et elles nous donnent leur avis sur le sujet dont nous parlons dans l'émission, ainsi que sur une actualité qu'ils ont choisie. Bonjour Stéphanie Genant.
Bonjour Mathieu.
Cette semaine, votre chronique est placée sous la bannière du retour à l'état sauvage, le wilderness en quelque sorte, dont on parlait la semaine dernière à propos de Joseph Conrad. Est-ce que c'est tout de suite cela qui vous a frappé quand vous avez découvert Joyce Carol Oates?
Oui. C'est même ce qui me fascine chez elle, et pour moi ce qui fait vraiment la force de ses romans, aussi bien d'ailleurs quand elle parle des jeunes, hein, de cet état d'indétermination d'identité que sont les adolescents, mais la formule « retourner à l'état sauvage », je l'ai emprunté d'un de ses romans qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué, qui est Mud Woman, qui est paru en 2013 et qui est le récit d'un enfant trouvé, d'une jeune fille trouvée dans la boue, qui devient ensuite, une fois adoptée, présidente d'université, qui fait une brillante carrière, mais en étant toute sa vie fracturée par ses origines d'être une enfant sauvage, comme on disait. Et lorsque Joyce Carol Oates dit retourner à l'état sauvage dans Mud Woman, elle désigne deux choses qui, moi, m'ont paru vraiment importantes et très fortes dans ce texte comme dans son œuvre. D'une part, elle parle d'un paysage, puisqu'il s'agit de la vallée originelle de cette femme qui est retournée à l'état sauvage, c'est-à-dire un paysage dont l'humain semble avoir soudain disparu. Ça, c'est quelque chose aussi que je trouve très, très saisissant dans son œuvre, à la force de ce paysage un peu brut, très américain, Hein, les Américains ont comme ça un continent structuré entre d'un côté un espace un peu civilisé qui est les côtes et les grands espaces urbains. Puis au fur et à mesure qu'on rentre dans les terres, hein, l'humain disparaît, on finit par arriver dans des déserts.
Vous parlez d'expérience.
Oui, effectivement, j'ai fait ce voyage, mais Joyce Carol Oates joue aussi là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui est très américain, cette structuration de l'espace entre la civilisation et le sauvage. C'est beaucoup plus marqué que chez nous. Et donc, on voit les paysages parfois retourner à l'état sauvage, comme on voit les personnages faire la trajectoire de la ville au marécage, à la campagne, au désert urbain. Donc, c'est à la fois un paysage qui se réen sauvage, et puis c'est un personnage aussi. Et c'est ça que moi, que je trouve vraiment très fort dans cette œuvre-là, c'est qu'il y a un retour à l'origine, une anamnèse, on pourrait dire, mais qui s'écrit en lettres de paysage, de voyage sensible. Si bien que la question pour moi très forte qui intéresse Joyce Carol Oates et qu'on voit très bien dans Mud Woman, mais pas seulement, c'est la question des racines, la question de l'origine, aussi d'ailleurs au sens social du terme, puisqu'on voit très bien que le moi sauvage, c'est-à-dire le moi primitif, le moi archaïque, le moi premier, celui de l'enfance, hein, dont Joyce Carol Oates a dit qu'elle nous structurait hein, pour la totalité de l'existence, ce moi sauvage, on le retrouve, il est toujours là. Et même quand on est président d'université, qu'on a franchi des cercles de parcours intellectuels, lorsqu'on revient sur ces lieux d'origine, lorsqu'on revient sur ces espaces, on est toujours, on parle avec le même accent que ces gens-là. Hein, le moi sauvage réapparaît. Et donc, lire Joyce Carol Oates, c'est se réensauvager aussi, c'est revenir sur ses origines et se ressouvenir qu'en fait, même quand on est devenu une autre personne, hein, celle qu'on était au départ, est toujours là. Hein, c'est ça que je trouve très fort.
Et ce moi sauvage, c'est pour Joyce Carol Oates plutôt un trésor, plutôt une difficulté. Ça représente quoi finalement ?
Ben, les deux. C'est à la fois quelque chose, de toute façon une difficulté au sens où on ne peut pas en faire l'économie, mais l'impasse. Hein. Faudrait vraiment, c'est une folie de croire qu'on peut effacer ce premier moi. Mais en même temps, c'est une force, on le voit chez ces personnages. Ce personnage de MK dans Mud Woman, c'est une présidente d'université et même une universitaire, c'est peut-être ça qui m'a plu, mais inspirée. Parce qu'en fait, elle oublie jamais d'où
elle vient. Vous n'avez pas grandi dans la boue, rassurez-nous.
Non, mais du coup, elle a un côté sans compromission authentique, parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait qu'elle aurait pu ne pas faire ce qu'elle fait. Et du coup, elle le fait avec passion. Personne ne comprend pourquoi elle est si inspirée. En fait, parce qu'elle n'est pas héritière, elle vient d'ailleurs.
Voilà. Alors, votre actualité, elle est également ensauvagée, puisque vous avez voulu parler du Garçon sauvage de Paolo Cognetti, qui a paru cet automne, c'était chez 10-18, Stéphanie
oui.
Genant.
Alors, Paolo Cognetti est un jeune romancier italien qui a une double actualité cet automne, puisqu'il a aussi fait paraître un livre qui s'appelle Les Huit Montagnes. Paolo Cognetti, son espace sauvage, c'est la montagne. L'histoire du garçon sauvage prolonge pour moi la même problématique que l'œuvre de Joyce Carol Oates, un peu moins fort peut-être, qui consiste à associer un paysage à une remontée en soi, à un travail d'épure de l'identité. Quand on ne sait plus qui on est, il faut à un moment donné se retrouver ou plus exactement se débarrasser du personnage social, du vernis, des masques. Et Cognetti montre l'histoire d'un jeune homme qui part 8 mois au Val d'Aoste dans un chalet d'alpage, sans voir personne, réfléchir du coup sur qui il est, son besoin des autres, est-ce qu'on peut vivre sans sociabilité. Et il associe cette abrasion de l'être au paysage de montagne, en montrant que ce paysage de montagne aujourd'hui, il est comme le moi, il est trop travaillé par l'humain. Donc il faut rechercher dans la montagne ce qu'elle a été avant d'être des pistes de ski.
Si c'est encore possible.
En tout cas, lui, il rêve de ça. J'adore cette phrase. Il dit « La montagne où on doit retrouver des loups et des ours, hein, et plus des télécabines. » C'est exactement la même chose que retrouver ce qui est en nous enfoui, ce qui était là, en fait, qu'on n'aurait jamais dû oublier.
Merci Stéphanie Genant. Je rappelle que vous êtes universitaire à l'Université de Rouen. À très bientôt.
Merci.
Be a boxer in the golden ring. Can you punch like a southbound freight train? Tell me just one thing. Can you move in a word like a hummingbird's wing if you need to?
Ooh, that's fast.
Can you bob, can you weave, can you fake and see when you need to?
Dernier moment de cette compagnie des auteurs dédiée à Joyce Carol Oates avec à présent la romancière Ingrid Astier, auteure dans La Série Noire des éditions Gallimard, de Quai des Enfers en 2010, Angle Mort en 2013 et Haute Voltige cette année. Avec elle, nous entamons une dernière ligne droite qui nous amène directement jusqu'au ring.
Box, issue de la vie, n'est pas une métaphore, mais un univers unique, fermé, avec ses propres références, qui la rapproche de ses religions sévères, où l'individu est libre et déterminé, à la fois inspiré d'une volonté divine et totalement impuissante. La sensibilité puritaine aurait compris la réalité d'une bouche pleine de sang, d'un œil pendant de son orbite, châtiment bien mérité pour un instant de négligence.
Boy inside you, not a punched out tramp. If you listen and you learn, there's an honor you can earn in your friend here.
Extrait de la box de Joyce Carol Oates par Noël Simsolo. Bonjour Ingrid Astier.
Bonjour.
Dans le cahier de Lerne auquel vous contribuez, vous aussi, vous faites un rapprochement entre donc deux livres de Joyce Carol Oates, Blonde, dont on vient de parler avec Nancy Houston, et donc son essai de la box. Vous dites que ces deux livres sont l'envers et l'endroit d'une même quête. Alors expliquez-nous un petit peu quel rapport on peut faire entre ce qui semble deux opposés.
Oui, absolument. C'est ce qui m'a marqué chez cet auteur, c'est qu'on a en fait vraiment cette dualité, finalement le blanc et le noir, hein, le blond et le noir, hein, avec cette blondeur.
Enfin, la boxe, c'est pas forcément le noir, si.
Le noir, si, parce que la salle, elle est la salle du combat, elle est toujours liée à cette obscurité, à cette tension en fait qui rejoint la tension nocturne. C'est les forces aussi nocturnes qui sont en jeu. Et moi, j'aime vraiment le lire en miroir par rapport à Blonde. Où la blondeur de Marilyn Monroe est incandescence. Ce n'est pas une blondeur qui est candeur, ce n'est pas une blondeur qui est nordique, liée à la neige comme ça. C'est vraiment une blondeur qui est incandescente. Donc il y a un vrai répondant, il y a un jeu d'écho qui est pour moi évident et qui montre aussi toute la souplesse et l'élasticité du monde de Joyce Carol Oates, parce que c'est un écrivain qui est dans la métamorphose, qui a vraiment ce plaisir aussi du travestissement, de se glisser dans l'autre, et peut-être parce que pour elle-même, elle se considère comme transparente. Ça aussi, ça m'a toujours beaucoup marqué. Elle le dit textuellement, hein. Elle dit qu'elle est transparente à elle-même, et que en fait, à travers ses romans, elle absorbe, elle voit, elle regarde, elle absorbe, et finalement qu'elle restitue tout dans l'écriture. Et c'est assez troublant de voir qu'elle peut passer de Marilyn Monroe à au plus grand boxeur.
Donc il n'y a pas de thèse dans les romans de Joyce Carol Oates, elle est une passeuse, elle retranscrit ce qu'elle ressent, c'est ça
pour vous? Oui, exactement, c'est un peu la conception du personnage par ventriloquie, c'est-à-dire qu'il faut travailler cette migration de l'autre, de la parole aussi, jusque dans son propre corps, et qu'il y ait cette incarnation vraiment c'est incroyable qui fait qu'on s'oublie. On oublie son identité, son historicité, et que finalement on est presque enseveli par cette capacité à se glisser dans l'altérité. C'est une forme de salvation, à mon avis, chez elle aussi.
Alors, vous avez prononcé le mot d'incarnation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu davantage pourquoi, finalement, le mystère chez Joyce Carol Oates repose, selon vous, en partie sur cette notion d'incarnation, et pourquoi on peut le voir à la fois dans De la boxe et aussi dans Blonde, Ingrid Astier?
En fait, la clé de voûte de cette question serait l'anorexie. C'est renier le corps, c'est finalement nier le besoin, nier l'envie. Et on va dire que ce qui serait la seule forme positive pour Joyce Carol Oates de ça, c'est le désir. Mm-hmm. C'est-à-dire, contre le besoin, il y a le désir. C'est vraiment une femme de désir, de volonté. Donc le désir est plutôt incarné par Marilyn Monroe, et puis la volonté est vraiment pleinement incarnée par le boxeur, c'est un engagement plein du corps, c'est un corps qui est en majesté, c'est un corps superlatif, c'est en fait un corps qui envahit l'espace. À la limite, le ring n'est plus qu'un corps, donc pour elle, ça ne peut qu'être une fascination extrême. Et en même temps, elle comprend bien que le boxeur n'est pas qu'un corps, que le plus grand combat, c'est un combat de l'esprit. D'ailleurs, j'avais interrogé beaucoup de champions de boxe pour Haute Voltige, mm-hmm. et je me souviens de Dominique Delorme, qui me disait, mais tu sais, le combat, il n'a pas lieu sur le ring. Le combat, il a vraiment lieu, en fait, avant. Tout se joue avant, dans la concentration. Et finalement, tout est joué quand on mentalement, on va se préparer à la victoire. Et je pense que à chaque fois qu'elle débute un roman aussi, Joyce Carol Oates, elle se prépare à cette victoire, qui est triomphée de la longueur. C'est quand même exténuant ce parcours de l'écriture sur 1000 pages avec Blonde. Enfin, il y a quelque chose qui tient du marathon, vraiment aussi de la prouesse physique.
Donc vous êtes en train de nous dire, Ingrid Astier, que écrire c'est un peu comme de boxer, c'est ça?
Ah mais bien sûr, et elle le dit, hein, elle le dit très clairement. D'ailleurs, je vous avais apporté le début hein, de la préface qui ouvre ce livre, et où elle dit « Aucun autre sujet n'est, pour l'écrivain, aussi intensément personnel que la boxe. Écrire sur la boxe, c'est écrire sur soi-même, aussi elliptiquement et aussi involontairement que ce soit. Écrire sur la boxe, c'est également être forcé de réfléchir non seulement à la boxe, mais surtout aux limites de la civilisation. » Donc on voit que pour elle, mais c'est vraiment, c'est un projet en soi. Elle n'est pas dans le reportage. C'est vraiment, n'est pas comme dirait Mallarmé dans l'universel reportage.
Pourquoi sur les limites de la civilisation ?
Parce que en fait, elle sait aussi qu'elle va toucher à un point nodal qui va être la barbarie. Il y a quelque chose de viscéral, d'instinctif, de pulsionnel, qui est lié aussi à la violence. C'est quand même, la boxe, c'est quelque chose qui va toucher le visage, donc qui va toucher à l'intégrité, à ce qui est aussi est le réceptacle de toutes les pensées. Et je pense que la phrase donc chez Joyce Carol Oates, c'est une phrase qui tient de l'envoi, qui tient vraiment de ce geste,
c'est
qui
une
est
droite.
Un geste physique. Alors une droite, un crochet, c'est indirect, oui, mais avec tous ces méandres, hein. Mais il y a une énergie, il y a vraiment une vitalité, une forme de vitalité chez cet écrivain qui, moi, me subjugue, parce que on dit toujours que l'écriture c'est intellectuel, mais l'écriture c'est extrêmement physique. C'est quelque chose qui demande l'engagement du corps tout entier.
Alors je vous propose d'écouter ce que disait Joyce Carol Oates justement au sujet de son intérêt pour la boxe. Elle le disait à Laura Adler.
Mon père m'a emmené au match de boxe quand j'étais petite, dès 10-11 ans, je crois, 12 ans. Et donc, avec mon père, j'ai vu beaucoup de matchs à Buffalo, dans l'État de New York, et puis on voyait aussi des matchs à la télévision. C'était l'époque de Jersey Joe Walker, de Rocky Marciano, d'excellents boxeurs. Et bien des années plus tard, 25-30 ans plus tard, j'ai commencé à écrire sur la boxe. Mon père était décédé entre-temps. Donc je travaillais avec un roman, et puis Life Magazine m'a invité à faire une interview de Mike Tyson. Donc j'ai pris l'avion, je suis allée voir Mike Tyson, et j'ai rencontré tous ces gens qui écrivaient, qui avaient écrit sur la boxe. Norman Mailer, par exemple. Mais moi, j'ai toujours écrit du point de vue de la femme, du point de vue d'une femme, du point de vue féministe.
Qu'est-ce qui se passe sur un ring avec ces deux hommes qui s'approchent, selon vous ?
Il y a des boxeuses maintenant. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et d'ailleurs, le prochain roman que j'écris, qui va sortir en février, on a un personnage, une boxeuse. Il y a beaucoup de femmes qui sont boxeuses et qui sont vraiment de grandes sportives, féministes. Mais il n'empêche, certaines sont exploitées, ils ne gagnent pas grand-chose. Or, c'est quand même un sport dangereux. On se fait mal. Et moi, je voulais parler dans ce roman de la manière dont ces femmes sont exploitées.
Alors un peu plus loin dans cette émission, Joyce Carol Oates disait que c'était assez compréhensible au fond que la boxe existe de toute antiquité parce que le besoin de lutter, disait-elle, est très présent chez beaucoup d'hommes. Est-ce que vous avez l'impression que la boxe chez Oates s'est liée à la question du genre, à une définition de la masculinité ? Est-ce que ça a partie liée à cette frontière homme-femme ?
Ah oui, la boxe en soi, évidemment, il y a quelque chose de très viril dans l'acceptation de la violence. La femme va plutôt essayer de parler, en fait, va chercher une solution verbale, tandis que là, la réponse, elle est gestuelle et ô combien violente dans ce geste. Donc, on touche à l'extrême, et c'est ce qui intéresse en fait aussi cet écrivain, c'est que elle aime toucher une frontière, elle aime toucher le personnage vraiment au bord de son ravin, enfin sur une sorte de crête. C'est quelqu'un qui vraiment écrit sur cette notion du personnage sur les crêtes. Et là, on l'est de façon exemplaire. Et en même temps, c'était très intéressant de l'écouter dire qu'elle l'abordait avec sa féminité. Mais c'est sa part qui va être dans la détermination aussi. C'est sa part féminine à elle aussi qui est liée à l'anorexie, qui est dans l'extrême volonté, dans le pouvoir total sur soi. Et qui fait aussi que l'écriture est une ascèse. Pour elle, ça relève vraiment de l'ascèse. Elle le dit d'ailleurs très clairement, elle dit que pour elle, c'est une discipline. Que c'est quelque chose, et même elle dit que écrire pour elle est un sport de haut niveau. Donc le mot, il est dit, écrire est un sport, c'est un combat, parce qu'en même temps, le combat qui se tient dans chaque roman et dans l'écriture, c'est le combat de la vie. Et ce qu'elle voit dans la boxe aussi, c'est intéressant, elle voit pas uniquement un combat où deux corps en sueur, en fait, s'affrontent dans tout ce qu'ils ont de viscéral, hein. Elle dit que finalement, ce qui se joue sur le ring, c'est un drame shakespearien. Et on revient à l'écriture. Donc à chaque fois, les deux sont mêlés. C'est-à-dire que elle, dans l'écriture, elle est dans la volonté, elle est dans un corps qui se donne, qui s'épuise. Et elle disait aussi de la boxe que ce qui l'intéressait, c'était que ça faisait mal. Mais l'écriture aussi, elle dit que enseigner comme écrire, c'est quelque chose d'épuisant et c'est quelque chose finalement où elle se sent vivre. Mmh. Comme le boxeur, en fait, se sent vivre dans cette présence du corps qui grave l'instant et qui fait que l'instant est habité de façon superlative.
Elle écrit « Les boxeurs rendent visible ce qui est invisible en nous ».
Voilà, de la même façon qu'elle montre que l'écrivain va révéler en fait quelque chose d'universel, mais qui, de façon géologique, a besoin de remonter à la surface. Et la ligne, finalement, qu'est-ce que c'est la ligne d'écriture, à part cette émotion qui va remonter à la surface et cristalliser par les mots, hein, c'est cette ligne tendue des mots qui nous révèle. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. And so I'm through with baby.
Alors pour revenir à Blonde et la boxe, vous expliquez aussi que finalement le boxeur, parce qu'il est l'homme le plus fort du monde, le plus grand boxeur du monde et l'homme le plus fort du monde, doit avoir la femme la plus belle du monde. Et oui. La femme la plus belle du monde, alors déjà c'est intéressant, déjà est-ce que l'homme le plus fort du monde doit avoir la femme la plus belle du monde et pourquoi? Et cette femme la plus belle du monde, c'est Marilyn Monroe. Et ce serait Marilyn Monroe.
Oui, c'est comme si les deux romans, les deux, l'essai et le roman, c'est comme si vraiment ils formaient un couple. Pour moi, il y a un couple antithétique, un couple qui s'attire par ses contraires. Et c'est... Voilà, il y a d'un côté la force, la virilité, et de l'autre côté la femme iconique, mais aussi la femme qui finalement devient aussi une forme de caricature d'elle-même. Et elle le dit Marilyn Monroe, c'était un robot, c'était vraiment le robot fabriqué par Hollywood. Ouais. C'est un chant des sirènes, donc ce qui l'intéresse à travers ça aussi, c'est la fantomisation de l'individu. C'est ce point que l'on touche, mais tant à travers le champion de boxe que la
star. Et en même temps, ils l'ont voulu, cette célébrité, ils ont voulu être regardés, ils ont voulu être fantomisés d'une certaine manière.
Mais les deux, en fait, les deux incarnent l'extrême force qui est menacée, en fait, de l'écroulement. Et le boxeur au sens physique, le chaos, Marilyn Monroe au sens physique également par le suicide.
Et Joyce Carol
c'est
Oates,
la négation. Finalement, on aboutit à la négation du corps. Le chaos est une forme de négation du corps. Plus rien n'existe. Hein, c'est vraiment le relâchement total et la perte de conscience et le suicide et la façon de s'effacer la plus efficace au monde.
Et en même temps, Joyce Carol Oates avouait avoir un faible pour les personnages qui ne s'effondrent jamais totalement.
Voilà, donc
il faut qu'ils soient sur le bord de l'effondrement, mais pas tout à fait.
On vient à ce paysage de montagne qui finalement est le paysage de tout roman fort, de tout vrai roman. Hein. Un roman, c'est pas une grande plaine où on s'ennuie. Hein. C'est justement ce qui donne de la grippe et qui est escarpé, comme Joyce Carol Oates.
Merci beaucoup Ingrid Astier. Vous aussi, comme Joyce Carol Oates, vous êtes intéressée à la boxe. C'est l'un des thèmes d'ailleurs de votre dernier roman, Haute Voltige, publié cette année dans la collection Série Noire, c'est chez Gallimard. La semaine prochaine, chers auditeurs, nous vous aiderons à faire vos cadeaux de Noël avec les parutions d'œuvres complètes les plus intéressantes de l'année 2017. Mais tout de suite, un nouveau moment de lecture de poésie, c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour à tous. Hervé Prudhon, le quatrième jour, on pourrait l'appeler Sylvie. Sylvie, sa compagne, Sylvie Péju. L'équipe médicale a choisi l'immunothérapie moins méchante que la chimio. On m'a dit que c'était mieux que le pire. Mais Sylvie ne voit que du pire, la mort et le deuil, et la vie vide de sens et beauté. La vie vaine et morte, une infinie tristesse émane de tout son être. Faudra-t-il que je meure ? Pour qu'elle vive ? En attendant, je veille seul au jardin des oliviers, et Sylvie dort enfermée dans sa dépression. C'est ça la compassion, la défiance et la mort des chiens de faïence. Que sera-t-il de nous quand j'aurai disparu ? Que sera-t-il de toi qui ne sais pas le nom des rues ? Que sera-t-il des jours de joie quand il pleuvra dessus des cordes de pendu ? Dis à la pluie que les poissons ne risquent pas de se noyer. Dis aux poissons que la pluie ne pleure pas. Dis aux oiseaux que les chasseurs ne pleurent pas. Dis-toi que je n'entends pas. Tu ne sais pas te taire. Parle à la terre. Un mort à la mer, écrit le 5 septembre 17. Un mort à la mer, plonge et nage, tu me verras plancton, algues, corail, ciel, mon mari. Vol, tu me verras nuage, lugubre rigolo, je serai fleur à travers champ, je serai blé, bleuet, coquelicot, absence, je serai vent, je serai pierre et terre, je serai silence, je serai abstrait. Quand je vois que des gens qui ne me connaissent que de vue ne m'aiment pas, je me dis qu'il reste au monde quelques milliards d'ignorants tout disposés à m'insulter, me couvrir de crachats, voire me faire la peau, et j'hésite à partir ou rester. Le 2 septembre 17. Si la douleur prend ses quartiers, plus question de philosopher, plus question de dormir, la guerre, on l'a perdue. La mort, on n'y pense plus. On a juste mal sans rien faire. Vivre est devenu superflu. Tout est dit, toute idée, née de la plume, ou née du plomb, légère enclume, lourd papillon. Hervé Prudhon. J'assiste à ma mort triste et douce, à Paris, tandis qu'ici et là j'entends qu'on veille à grands cris, on sort des bêtes sauvages de l'abattage, des cochons de la prolifération, des bactéries, autant d'infos dont je me fous. Mais j'aimerais juste, sans penser à mal ni à mort, avoir moins mal de moi, et penser plus aux autres bêtes, cochons et bactéries, participer à la souffrance et l'insouciance universelle, si ce n'est pas trop demandé. Me taire encore, serrer les dents que je n'ai plus, et les fesses et le cul moins chers que trou, et vivre plus vite que peu ou prou. Il y a les jours avec et les jours sans, et les jours sans, faut faire avec. C'est donc un jour sans moi. Vous êtes venu ne pas me voir, m'entendre garder le silence et partir par la cheminée, comme si je n'étais jamais né. Au mois d'avril, un hommage sera rendu à Hervé Prudhon à la Maison de la Poésie à Paris.
Merci Jacques Bonafé.